Vous écoutez Radio France Internationale, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mardi 8 octobre, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est la session soirée de l'info sur RFI, on va voyager à travers le monde pendant 3 heures. Au programme, le débat du jour, qui dans 30 minutes parlera budget. Alors le budget, c'est le mot de la rentrée en France. Le budget 2025 doit en effet être présenté dans 2 jours. Et Bruxelles observe tout cela d'un œil très inquiet, car la France se distingue par un déficit massif bien loin du cadre européen. D'où la question, est-ce qu'il faut s'affranchir des règles européennes pour être plus compétitif? Rendez-vous donc dans 30 minutes. 18h10, TU, eh bien c'est Mardi Politique ce soir. Invité Pierre-Alexandre Anglade, député des Français établi hors de France, président de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale. 18h30, TU Afrique Soir, à la une des rumeurs, des mentis sur l'état de santé du président du Cameroun, Paul Biya. 19h10, TU, votre session reportage, Accent d'Europe en Allemagne. Reportage dans le premier centre binational de coopération policière, depuis que Berlin a rétabli les contrôles à ses frontières avec ses voisins. Enfin, le grand reportage ce soir, Gaza, les Palestiniens, tous coupables aux yeux d'Israël. Voilà pour le programme. Mais pour commencer, c'est le grand journal du soir. Bonsoir Stéphane Jeunesse.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, le Hezbollah qui dit avoir tiré des roquettes sur Haïfa, la grande ville du nord d'Israël.
La ville stratégique à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Liban. Une roquette a frappé le centre urbain de la ville. Nos envoyés spéciaux sont sur place. La Floride en état d'alerte maximale. Ce mardi, l'ouragan Milton, classé en catégorie 5, le niveau le plus élevé, va toucher sol dans les prochaines heures. 7 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la région. Au sommaire également, ce regain de tension en Martinique en marge de manifestations contre la vie chère. 4 gendarmes légèrement blessés la nuit dernière, c'est le dossier de votre journal. Et le gouvernement français fait face à une motion de censure à l'Assemblée. On y est et on vous fait vivre les débats.
Et puis on est également sur l'actualité sportive. Hein. Dans un quart d'heure, toute l'actualité sportive dans RFI Soir, on va parler football, c'est la trêve internationale. En Europe, on prépare les 3e et 4e journées de la Ligue des Nations. Et donc pour débuter, la situation au Proche-Orient, Israël élargit son offensive terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban.
L'État hébreu y a déployé une 4e division après avoir appelé les habitants de la région à évacuer la zone côtière. Le Hezbollah, lui, affirme avoir repoussé des soldats israéliens infiltrés près d'une position de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, le Hezbollah a tiré également environ 85 roquettes sur Haïfa, au nord d'Israël, ville portuaire stratégique. Elle héberge notamment une raffinerie et c'est là que sont réfugiées les 3000 personnes qui ont fui cette zone à seulement 40 kilomètres de la frontière avec le Liban. Et malgré le système de défense anti-aérien israélien, c'est la 2e fois en 2 jours qu'une roquette a atteint le centre urbain de la ville. Nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Nicolas Benita se sont rendus sur les lieux de l'impact. Reportage.
Toutes les fenêtres des grandes barres d'immeubles qui entourent la boulangerie sur laquelle a atterri la roquette ont été soufflées. L'armée a rapidement mis en place un périmètre de sécurité. Derrière l'un des rubans rouge et blanc, Yaniv, débardeur et tatouage, boit une bière en observant l'agitation.
C'est la première fois que c'est aussi intense. Il y avait des alarmes, mais moi j'ai jamais fait attention aux alarmes, j'ai pas peur des Arabes. Quand il y a des alarmes, j'ai toujours regardé les interceptions des roquettes par le dôme de fer. J'ai jamais pensé à fuir, à me cacher aux abris. Mais aujourd'hui, il faut que j'aille remercier le bon Dieu. Ça fait boum, 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 tac, tac, boum. Comme une pluie d'explosions avec plein d'éclats qui volent dans tous les sens.
Yaniv est l'un des rares habitants à ne pas être parti aux abris. Un seul blessé léger a été recensé. Le commandant Liran Salomon dirige les opérations militaires sur la zone.
La roquette est tombée juste entre les deux bâtiments là. C'est la première fois qu'on a géré une telle situation. On a fait notre travail du mieux qu'on peut. On a des entraînements intensifs en amont à cet effet.
Alors que l'armée sécurisait les lieux, la municipalité a rapidement nettoyé la place de toute trace de débris. Le maire nous a affirmé tenir à ce que les habitants ne fuient pas la ville. Nicolas Benita, Oriane Verdier, Haïfa, RFI.
Par ailleurs, le Qatar annonce ouvrir un pont aérien pour aider le Liban, le Qatar tout comme la France d'ailleurs, qui ont acheminé ce mardi de l'aide humanitaire d'urgence au Liban, le chef de la diplomatie française qui décrit un pays au bord du gouffre.
Et autre conflit qui est suivi de très près par la France en Ukraine, la Russie revendique la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays.
Les frappes russes contre la population continuent, cela de manière quotidienne, et ces bombardements ne se limitent plus à la ligne de front, hein, puisque parmi les villes les plus touchées, il y a Kharkiv, la 2e plus grande ville du pays, Russie. Elle a été à nouveau visée aujourd'hui. Emmanuel Chaz, vous êtes la correspondante de RFI en Ukraine. Vous êtes en ligne avec nous, puisqu'Emmanuel, comme ailleurs dans le pays, ces bombes ont fait des victimes civiles.
Tout à fait. Kharkiv est bombardé quotidiennement. Ce matin, c'était un bâtiment civil qui était touché. Une bombe planante s'y est écrasée. 21 personnes ont été blessées. La plupart ont dû être hospitalisées. Et parmi elles, un adolescent de 16 ans. Dans l'après-midi, toujours à Kharkiv, un bâtiment résidentiel d'une quinzaine d'étages a été bombardé. Deux personnes sont mortes dans ces nouvelles frappes. Elles se promenaient dans un parc au moment du bombardement. Oleg Sinyaroubov, le gouverneur de l'administration militaire de la région, parle d'au moins 5 bombes planantes lancées sur Kharkiv aujourd'hui. Depuis la région voisine de Belgorod. Ces dernières semaines, ces frappes se sont intensifiées et lors de chacune de ces attaques, Kiev réitère ses demandes de renfort pour sa défense aérienne à ses alliés. Ailleurs dans le pays, les forces russes harcèlent la population, notamment dans la région de Kherson avec ces mêmes bombes planantes. Hier, 7 personnes ont été blessées et à cela s'ajoutent, et toujours à Kherson, des attaques de drones désormais quotidiennes contre des civils ciblés lorsqu'ils sont à pied ou en voiture. Ces frappes ne trouve aucune justification dans le droit international.
Emmanuel Chaz, correspondante de RFI en Ukraine, en direct dans ce journal.
Allez, direction à présent les États-Unis. Stéphane Genest, précisément la Floride qui se prépare au passage de l'ouragan Milton.
Ouragan historique qui fonce tout droit sur la mégalopole de Tampa. Milton qui est extrêmement dangereux, classé en catégorie de danger maximal. La région qui est donc évidemment en état d'alerte. Vous êtes en ligne de la région pour RFI, justement David Thompson, puisque ce sont 7 millions de personnes qui sont concernés et qui ont tout simplement reçu l'ordre d'évacuer.
Oui, qui se prépare à un choc, celui d'un ouragan historique. Les météorologues sont unanimes. Milton, c'est presque du jamais vu. Et cet ouragan fonce effectivement droit sur cette mégalopole de Tampa, 3 millions d'habitants. Hier soir sur CNN, la maire implorait ses administrés de quitter la ville au plus vite. Avec des mots très directs, ceux qui ne respectent pas l'ordre d'évacuer, prévient Jane Castor, vont tout simplement mourir. Un appel repris ce matin par le président des États-Unis, Joe Biden, depuis la Maison-Blanche.
C'est peut-être le pire ouragan du siècle. J'appelle tout le monde qui se trouverait sur la trajectoire de l'ouragan à écouter les consignes des autorités locales et à évacuer dès maintenant. Vous auriez déjà dû le faire, je n'exagère pas. C'est une question de vie ou de mort.
Et les habitants ne se font pas prier pour partir, ils fuient Tampa en masse. Un immense embouteillage d'une cinquantaine de kilomètres s'est formé sur l'autoroute à la sortie nord de la ville. L'impact est prévu pour demain avec des vents dépassant les 200 km/h et surtout une montée des eaux de plus de 4 mètres en plein cœur de cette mégalopole. Le scénario du pire pour la Floride, tout juste 2 semaines après le passage d'un autre ouragan meurtrier, Hélène, qui a laissé plus de 230 morts dans son sillage.
David Thompson, en direct de Floride pour RFI.
Et cet ouragan Milton, on l'a entendu, qui inquiète Joe Biden.
Le président américain y renonce à se rendre comme prévu en fin de semaine en Allemagne puis en Angola en raison précisément de cette actualité. La Maison-Blanche indique qu'il reste sur le sol américain pour superviser les préparatifs et la réponse au passage de Milton.
19h08 ici à Paris. L'actualité en France à présent et ces affrontements qui se poursuivent et qui s'intensifient en Martinique, entre manifestants et forces de l'ordre.
Des affrontements qui durent depuis maintenant plus d'un mois en marge du mouvement de lutte contre la vie chère. 4 gendarmes mobiles ont été légèrement blessés par des tirs la nuit dernière lors de violences urbaines. Regain de tension dans cette île française des Caraïbes après la mobilisation donc contre la vie chère. C'est le dossier du journal. Avec vous, Pierre-Olivier. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Stéphane. Bonjour à tous.
Alors,
bonsoir.
On va faire le point sur ce qu'il se passe en Martinique et notamment quelles sont les revendications des manifestants. Et déjà, Pierre, quel est le mouvement qui mène cette gronde?
Alors, il s'appelle le RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. C'est un jeune mouvement qui est né en juillet dernier avec à sa tête 3 personnes, Rodrigue Petitot, Aude Goussard et Gladys Roger. Sur Instagram, il compte près de 15 000 membres. Et le RPRAC prône des actions non violentes pour dénoncer l'écart des prix de la grande distribution entre l'Hexagone et la Martinique.
Car en moyenne, Pierre, d'après l'INSEE, l'Institut National des Statistiques, les produits alimentaires sont 40% plus cher en Martinique qu'en métropole.
Oui, et même si les fonctionnaires touchent une prime de salaire pour compenser cette vie chère, ce n'est pas le cas pour tous les actifs. Écoutez Aude Goussard, l'une des figures du RPRAC, jointe cet après-midi.
Nous estimons qu'un peuple qui n'a pas la panse remplie ne pourra pas mener d'autres luttes sociales. Les marges doivent baisser parce qu'une mère de famille qui élève ses enfants seule, aujourd'hui a une boîte de steak, 8 steaks à 18 euros, 50 en France sur la même marque, la boîte est à moins de 10 euros.
Et dans le viseur du Airprac, Pierre-Olivier, il y a le syndicat de la grande distribution.
Oui, le mouvement accuse la grande distribution de vouloir profiter de l'argent public car l'État français est prêt à baisser sa TVA et l'octroi de mer sur les produits importés en Martinique. Mais la grande distribution, elle, ne veut pas toucher à ses marges selon le mouvement qui se demande comment l'État va rattraper ces baisses de taxes. Aude Goussard.
On a affaire à une grande distribution comme un bébé capricieux qui ne veut pas qu'on touche à ses affaires et qu'on demande sans cesse un effort national pour baisser les taxes. Mais quand on baisse les taxes à la Martinique, c'est qu'on va augmenter quelque part d'autre. Sur quel impôt allons-nous répercuter ces baisses de TVA et ces baisses d'octroi de mer ?
Et le RPRAC demande donc à ce que ce soit la grande distribution qui fasse un effort et appelle à une mobilisation générale dès demain, mardi, partout en Martinique.
Le dossier du journal avec Pierre-Olivier du Service France de RFI.
Et ces tensions en Martinique, Stéphane Jeunesse, qui ont été évoquées à l'Assemblée nationale ce mardi. Dans l'hémicycle, précisément, le Premier ministre a fait face à sa première motion de censure.
Déposée par les députés de l'Alliance des partis de gauche, le Nouveau Front Populaire, il protestait contre, je cite, la négation du résultat des élections législatives. Puisque cette coalition est arrivée en tête du scrutin début juillet sans pour autant obtenir une majorité absolue dans la chambre basse du Parlement. Elle reproche depuis au chef de l'État de ne pas lui avoir réellement donné une chance de former un gouvernement, Emmanuel Macron ayant préféré Michel Barnier. Motion de censure qui a très peu de chances d'être adoptée étant donné l'absence de soutien du Rassemblement National. Vous êtes à l'Assemblée Nationale pour RFI, Charlotte Urien-Tomaca, et les débats sont toujours en cours dans l'hémicycle.
Les débats viennent de se terminer à l'instant et le vote est actuellement en cours dans les salons attenant à l'hémicycle. Une ambiance donc assez calme pendant ces débats. Et c'est Olivier Faure, premier secrétaire du PS et qui avait déposé cette motion de censure vendredi dernier, qui a donc pris la parole dans l'hémicycle en premier pour donner ses arguments. Un texte signé par la quasi-intégralité des députés de gauche. Et le député PS a parlé, je cite, d'un détournement démocratique, d'un hold-up électoral avec la nomination de Michel Barnier pour justifier donc le dépôt de cette motion de censure. Le Premier ministre qui lui a répondu, je cite, que la majorité relative qui accompagne le gouvernement est aujourd'hui la moins relative, regrettant une motion de censure, je cite, a priori. Le député RN Guillaume Bigot qui a présenté les arguments du groupe pour ne pas voter cette motion, car le groupe parlementaire est un peu le faiseur de roi de ce gouvernement. Le député RN a donc été très critique envers le gouvernement Barnier, dénonçant un calendrier inacceptable sur le budget notamment, mais expliquant que le groupe RN ne voulait pas déstabiliser le pays plus qu'il ne l'est. Les députés d'extrême droite ne voteront donc pas cette motion de censure. Les présidents de groupe se sont donc succédés à la tribune de l'hémicycle pour donner la position de chacun et seuls les députés de gauche devraient voter cette motion de censure, ce qui ne permettra pas, selon toute vraisemblance, de renverser le gouvernement. Le vote est donc, je le disais, en cours. Résultat avec peu de suspense d'ici une trentaine de minutes.
Charlotte Urien-Tomaca à l'Assemblée nationale pour RFI.
La politique également en Inde à présent, puisque les élections locales au Cachemire viennent de donner victoire à l'opposition.
Et c'est à noter, hein, ce sont les premières élections en 10 ans qui se sont déroulées dans cette région disputée par l'Inde, le Pakistan et la Chine, dont l'autonomie a été restreinte par le BJP, le parti de Narendra Modi en 2019. Région qui vit sous le contrôle étroit des autorités de New Delhi, mais malgré ce contexte tendu, ce premier vote depuis 2014 au Cachemire à majorité musulmane a attiré 63% du corps électoral. Alors comment interpréter cette participation élevée alors qu'une grande partie de l'opposition a été muselée ? Élément de réponse avec Jean-Luc Crassine, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior au think tank Asia Center.
Les leaders de l'opposition ont été longtemps maintenus en résidence surveillée après 2019. Le principal leader religieux musulman du Cachemire n'est pas toujours pu officier et lui aussi a été placé en résidence surveillée pendant un certain temps. Donc tout cela laisse quand même un climat assez lourd. Et ça reste la question majeure sur l'interprétation de la participation. Est-ce que la participation relativement forte, parce que après tout 63% c'est quand même pas mal, a été une opportunité pour faire entendre sa voix, pas forcément évidemment, en faveur du gouvernement de Narendra Modi et de son parti sur place.
Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, joint par Nicolas Roca pour RFI. Omar Ben Laden, fils du djihadiste Oussama Ben Laden, qui s'était installé en France, en Normandie, en 2018, s'est vu notifié d'une interdiction administrative du territoire français. Il ne peut plus donc revenir sur le sol français. Voilà ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, installé dans un bourg de l'Orne, dans l'ouest du pays depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissantes britanniques. Omar Ben Laden a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme. Voilà la justification du ministre de l'Intérieur.
Enfin, ce coup dur pour une dizaine de fournisseurs d'eau au Royaume-Uni.
Ils vont devoir rembourser les consommateurs britanniques. Le régulateur interne estime que ces entreprises n'en font pas assez pour lutter contre la pollution et le rejet des eaux usées. Un problème récurrent dans le pays où les cours d'eau et les zones de baignade sont régulièrement et illégalement polluées. Émeline Vin, ce sont donc plusieurs dizaines de millions d'euros qui devront être restitués.
Les clients de 13 fournisseurs d'eau vont se partager 200 millions d'euros sous la forme de réductions sur leurs factures l'année prochaine. Le régulateur du secteur de l'eau, Ofwat, sanctionne ainsi les mauvaises performances de ses fournisseurs. Pour Ofwat, les entreprises n'atteignent pas leurs objectifs de réduction des fuites sur leur réseau et de rejets illégaux d'eau usée dans les cours d'eau et les zones de baignade. Seuls 4 fournisseurs évitent les pénalités financières, mais aucun n'obtient le grade de qualité maximale. Le régulateur estime que les entreprises n'ont pas effectué les investissements nécessaires. Si la somme des pénalités paraît importante, 200 millions d'euros, dont 60 rien que pour le fournisseur du Grand Londres, elle ne devrait avoir qu'un impact marginal sur les factures, quelques euros en moyenne, sans compter une hausse annoncée du prix de l'eau sur les années à venir. En août, plusieurs entreprises avaient déjà été condamnées à une amende de près de 200 millions d'euros pour les mêmes échecs. Les ONG de défense des consommateurs et de l'environnement dénoncent l'inefficacité des sanctions d'Ofwat et réclament un gel des dividendes pour les actionnaires des fournisseurs concernés. Emeline Vin, Londres, RFI.
À Londres, où il est 18h16, 19h16, ici à Paris, la suite de RFI sort avec vous, Romain Zouy.
Vous me passez la balle, merci beaucoup Stéphane Jeunesse. C'était le grand journal du soir sur RFI. Dans les prochaines minutes, nous évoquerons l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, qui a fait beaucoup parler de lui il y a plusieurs mois. Eh bien, le revoilà bientôt sur la table. Enjeu massif, représentant 1/5 du PIB mondial, cet accord commercial. Mais son principal opposant, le président français Emmanuel Macron, a-t-il encore les armes pour dire non? Élément de réponse à suivre avec nos confrères de Politico. Puis direction la Cisjordanie, territoire palestinien, objet de nombreuses incursions de l'armée israélienne depuis le lancement de l'offensive contre le Hamas il y a un an. Nous irons dans le camp de réfugiés de Tul Karem. Pour l'heure, voici les sports. Avec Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Romain.
Du football pour débuter, la trêve internationale. En Europe, on prépare les 3e et 4e journées de la Ligue des Nations.
Et les Bleus vont avoir 2 matchs à négocier, l'un contre la Belgique, lundi à Bruxelles, mais d'abord ce jeudi contre Israël. Match délocalisé à Budapest, en Hongrie, en raison du conflit entre l'État hébreu et le Hamas. La rencontre sera donc forcément particulière, d'autant que certains joueurs restent marqués par les conséquences des affrontements. Juste avant le dernier Euro, quelques Bleus comme Jules Koundé, Ousmane Dembélé et Ibrahima Konaté avaient par exemple relayé un message de soutien aux habitants de Gaza, victimes des bombardements israéliens. Et Ibrahima Konaté, le défenseur, un des cadres des Bleus, s'est justement exprimé sur le sujet en conférence de presse ce mardi.
Un match comme un autre, non, on va pas dire ça, mais en vrai, oui. Parce que nous, on est là, c'est pour jouer au football, on va pas regarder contre qui on joue. Le plus important, c'est de gagner, de prendre les 3 points et d'être heureux. Mais c'est sûr que ça nous laisse pas insensibles, ça c'est la vérité. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est abominable. J'ai pas les mots pour décrire ça et ça me fait mal. Mais le plus important, ce que moi je souhaite, et je pense que tous les membres et tous les joueurs de l'équipe de France, nous ce qu'on veut c'est juste la paix dans le monde. Si on peut aider à travers notre comportement, à travers nos paroles, à travers la bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres, juste à calmer le cœur des gens qui sont autour de nous, car... On peut vivre, on peut être avec des personnes qui ont une haine qui naît à travers les images qui vivent, mais si on peut essayer de les resensibiliser pour leur rappeler que, avant toute chose, au-delà de la religion, au-delà des conflits, on est des êtres humains. Si seulement on pouvait juste se rappeler de ça, je pense qu'on vivrait déjà dans un monde meilleur.
Voilà, Ibrahima Konaté avant Israël, France, coup d'envoi donc ce jeudi à Budapest à 18h45, temps universel. Petit rappel romain sur le plan sportif, les joueurs du Didier Deschamps sont deuxièmes du groupe 2 de la Ligue A de cette Ligue des Nations avec 3 points. Ils sont devancés par l'Italie qui est leader et qui elle affrontera la Belgique.
Et puis chez les dames, le début de la Ligue des Champions avec la première journée de la phase de poule.
Oui, avec un club français en lice, l'Olympique Lyonnais, club le plus titré de l'histoire qui défie les Turcs de Galatasaray. Le match a démarré il y a une trentaine de minutes et pour l'instant il y a 0-0 entre les deux équipes. Et donc premier, seul club français pardon encore en lice puisque avec les éliminations en tour préliminaire du Paris FC et du PSG, les espoirs tricolores reposent sur ces Lyonnaises, 8 fois vainqueurs de la compétition. À suivre également ce mardi, Wolfsburg, AS Rome ou encore Chelsea, Real Madrid.
Allez, le tennis à présent, c'est Eric de Oliveira parce que se poursuit le Masters 1000 de Shanghai en Chine.
Oui, un tournoi important pour les stars du circuit à l'image du numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner qualifié pour les huitièmes de finale et qui affrontera l'Américain Ben Shelton la nuit prochaine. À suivre également le duel entre le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Daniil Medvedev. Ça risque de cogner entre les deux hommes. Quant à l'Espagnol Carlos Alcaraz, il défiera Gaël Monfils, 38 ans et donc toujours présent. Le Français a éliminé au troisième tour son compatriote Hugo Humbert en trois manches 7-6, 2-6, 6-1.
Et bien voilà qui est complet. Merci beaucoup Cédric de Oliveira pour cette synthèse de l'actualité sportive de ce mardi 19h20 ici à Paris. Et l'on reparle d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Les négociateurs en chef des deux parties sont en effet réunis jusqu'à demain mercredi au Brésil. L'objectif, c'est de préparer un accord pour le soumettre ensuite aux dirigeants du G20 à la mi-novembre, à l'occasion du sommet de Rio. Bonsoir, Giorgio Leali.
Bonsoir.
Journaliste aux médias Politico, vous signez un article sur le sujet et vous vous intéressez précisément au rôle du président français dans ce dossier, car Emmanuel Macron est l'homme qui s'est opposé un accord commercial entre l'UE et l'Amérique latine. Et la question, Giorgio Leali, aujourd'hui, c'est de savoir s'il est encore en mesure, Emmanuel Macron, de rejeter un tel accord.
Oui, il faut d'abord peut-être préciser que la position française, c'est une position, en effet, de l'accord en l'état, donc du texte actuel. Et le gouvernement insiste que si des modifications sont faites, la France pourrait changer de position. Mais là, en l'espèce, donc, il y a une position qui a été exprimée d'une façon très forte en début de l'année. En janvier, le président avait notamment envoyé un texto, c'était un scoop de Politico, à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en lui demandant d'arrêter les négociations. Or, à l'époque, on se souvient, on n'avait pas encore eu les élections européennes. La présidente de la Commission n'avait pas encore été confirmé, donc on voyait bien que le président de la République avait un pouvoir contractuel très fort. Là, les choses ont totalement changé. On est confronté à une perte d'influence de la France à Bruxelles et la présidente de la Commission européenne, en revanche, elle vient de se confirmer et elle est plus puissante que jamais. Donc plusieurs sources nous indiquent que, en l'espèce, le pouvoir de veto de la France, en l'espèce, il est réduit, il est presque absent et on se rappelle donc c'est à la Commission européenne d'engager les négociations et de les conclure et c'est aux États membres de s'exprimer après sur la ratification de cet accord.
Parce que la France est la seule en Europe à s'opposer à un tel accord avec le Mercosur ?
La France est la seule à s'être exprimée d'une façon aussi explicite. Il y a plein d'autres pays qui sont exprimés à faveur. Il y a 11 pays notamment qui sont exprimés à faveur, dont le plus influent, c'est évidemment l'Allemagne. Or, la France est la seule à avoir opposé d'une façon frontale l'accord. Il y a potentiellement d'autres pays qui pourraient ne pas être convaincus par l'accord. Par exemple, l'Irlande, qui a un secteur lié justement au commerce des viandes assez développé et qui donc pourrait craindre la concurrence des importations de viande bovine de l'Amérique du Sud, mais le seul pays qui a vraiment exprimé une position, c'est la France à l'état actuel.
Et quel est l'état de l'opinion publique européenne sur ce sujet ?
L'état de l'opinion publique européenne, il est très différent par rapport à celui des différents gouvernements. Si on prend la France, il y a quand même une opposition assez forte dans certains milieux, notamment dans le milieu des agriculteurs. On a eu justement des manifestations des agriculteurs et l'opposition au Mercosur était évoquée à plusieurs reprises. Et dans les autres États membres aussi, il y a une opinion publique qui, d'une manière générale, n'est pas très favorable aux accords de commerce dont l'opinion publique n'arrive pas toujours à voir les avantages. Donc la question est ouverte de savoir déjà quel pourrait être le résultat d'un éventuel vote au Parlement européen quand il aura lieu. Et après, il y a une question à laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est-à-dire la question de savoir si les parlements des différents États membres de l'Union européenne devront se prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si le Parlement français devait s'exprimer sur l'accord du Mercosur, cet accord serait très probablement rejeté, vu que la majorité des partis, des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat opposent cet accord.
Et on rappelle l'enjeu de cet accord commercial, créer un marché de 800 millions de personnes représentant un cinquième du PIB mondial. Et vous écrivez dans Politico que c'est le dernier barreau d'honneur d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Giorgio Leali.
Merci beaucoup. Au revoir.
Le Proche-Orient, à présent, un an après le lancement de l'offensive israélienne sur Gaza, en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Ce que l'on sait moins, c'est que la Cisjordanie est également visée par les raids de l'armée israélienne, ce qui a alerté le mois dernier la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, qui a dit craindre que, je cite, « la violence génocidaire d'Israël ne s'étende de Gaza en Cisjordanie », fin de citation, dans ce territoire palestinien, la Cisjordanie, occupée illégalement par Israël, et où les incursions de l'armée se multiplient, comme dans le camp de réfugiés de Tul Karem. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Oriane Verdier, Nicolas Benita.
De décennie en décennie, le camp de réfugiés palestiniens de Tul Karem s'est transformé en petite ville. Depuis un an, de raid en raid, il se transforme en champ de ruines. Devant une des maisons éventrées, un homme empile des parpaings.
C'est la maison de mon voisin, c'est la troisième fois que je reconstruis ce mur.
Les chemins de terre sont boueux et laissent parfois apparaître des canalisations d'eau cassées. Devant sa maison, aux fenêtres fermées par des bâches en plastique, un vieil homme se tient la tête entre les mains.
À chaque fois qu'ils mènent un raid, ils cassent les vitres. La dernière fois, ils m'ont tiré dessus. Une balle est entrée et sortie là. Vous voyez, ils ont tiré une autre balle qui m'a fait tomber. J'ai essayé d'aider mon fils. Je lui ai dit, s'il te plaît, réveille-toi. Il était blessé au dos, mais il a essayé de se relever. C'est là qu'ils lui ont tiré deux fois dessus. Il avait 14 ans et il voulait être footballeur. Eux disent que c'était un terroriste. Il est mort entre mes mains.
Les forces israéliennes affirment mener des opérations contre les groupes armés palestiniens, dont la lutte trouve une résonance particulière au sein des camps de réfugiés comme celui de Tul Karem. Comme tous ses voisins, Abdullah Kanan est descendant de Palestiniens qui ont fui leurs terres ou ont été expulsés en 1948 lors de la création de l'État d'Israël.
Moi, je ne partirai jamais. Je mourrai en Palestine. Je ne partirai d'ici que pour retourner sur nos terres occupées depuis 1948.
Ici, tous en sont persuadés. Derrière la guerre contre le terrorisme, l'armée israélienne cherche à faire disparaître le statut de réfugié. C'est plus de 910 000 personnes qui attendent en Cisjordanie de pouvoir rentrer sur la terre de leurs ancêtres représenteraient une menace existentielle pour Israël. Faisal Salama, chef de la communauté du camp de Tul Karem.
Le premier raid au camp de Tul Karem a eu lieu le 23 juillet 2023. Mais après le 7 octobre, c'est devenu bien plus violent. Toujours plus de raids, d'arrestations, de morts. Les infrastructures sont détruites, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Ici, plus de 200 maisons ne sont plus habitables. Depuis le 7 octobre, les Palestiniens ne peuvent plus aller travailler sur le territoire israélien. Le taux de chômage a donc augmenté. Jusqu'à présent, les Nations Unies étaient responsables des services tels que la santé et l'éducation. Mais depuis le 7 octobre, leurs fonds ont été coupés. Ils ne peuvent donc plus nous aider non plus.
Près de 700 Palestiniens ont été tués en un an en Cisjordanie, une année durant laquelle les Nations Unies ont recensé une augmentation du nombre de morts, de destructions massives et de déplacements forcés causés par les forces israéliennes et les colons israéliens. Nicolas Benita, Oriane Verdier, Tul Karem, RFI.
Et vos poursuites d'actualité sur le Proche-Orient, n'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr. En direct, Benjamin Netanyahou qui menace le Liban de subir des destructions comme à Gaza, je cite. Le Premier ministre israélien s'est exprimé ce soir. Allez, 19h28 ici à Paris, dans une minute, le débat du jour qui sera consacré au budget. C'est le texte de tous les dangers pour le gouvernement français et c'est l'inquiétude qui prévaut à Bruxelles sur ce sujet. Notre question, est-ce qu'il faut s'affranchir des règles européennes en la matière, sortir de l'orthodoxie budgétaire? Eh bien, cela peut-il permettre d'être plus compétitif? Restez à l'écoute, on revient dans une minute sur la Radio Mondiale.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain...
Cicatrisation, eczéma, acné, psoriasis, nous parlons des différentes affections de la peau, diagnostic et traitement, et des conseils pour prendre soin de sa peau avec un dermatologue en direct pour répondre à toutes vos questions.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
Alors que Berlin a rétabli le contrôle des frontières avec tous ses voisins, y compris avec la France, comment se passe la coopération policière ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir à Kiel, dans le premier centre de coopération policière et douanière. Il fête cette année 25 ans d'existence.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.